saluer. Mais je devrais vous saluer à la manière orthodoxe que nous avons fait avec l'orthodoxe grecque. Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Ah, il y en a moins qu'il y en a qui connaissent la liturgie orthodoxe. Et je me souviens, étant enfant, du vivant de mon papa, donc, le jour de Pâques, hein, c'était comme ça qu'on était salué par mon papa, et il nous fallait répondre. Moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 8 ans, dans un accident de voiture, mais il fallait lui répondre ça. Christ est vraiment ressuscité. Et dans mon cœur d'enfant, je me disais, ouais, bon, peut-être, mais je ne comprenais pas tellement le sens de tout ça. Et pourtant, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, pour rappeler cet événement considérable, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 6, l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, dit les choses suivantes. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, donc l'apôtre Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et puis il y a nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Je me souviens quand le Seigneur m'a sauvé, que je suis devenu chrétien à l'âge de 23 ans, quand mes collègues de travail avec lesquels je parlais de l'évangile me disaient « Mais qu'est-ce que t'en sais que Christ est ressuscité ?» Alors je les regardais avec un petit sourire amusé, je leur disais « Bah, je le sais, j'ai parlé avec lui ce matin, je le connais, il vit en moi !» Alors vous savez, ils me regardaient un peu effaré, ils disaient « Jean est devenu fou !» Et je leur disais « Oui, je connais le Christ, je suis un des témoins, non pas visuel, mais... par expérience de cette rencontre avec Jésus-Christ, je peux vous dire, le Christ est vivant et ressuscité d'entre les morts, il vit en moi. Et lorsque je prie, eh bien, il m'exauce. Lorsque je lis les Saintes Écritures, il me parle. Et Jésus-Christ n'est pas quelqu'un d'extérieur à ma vie, bien au contraire. Il est ma vie. Alors, je voyais mes collègues qui étaient en général tous des gens politiquement très marqués, à gauche ou à l'extrême gauche. Et alors, ils me disaient, mais t'es complètement fou. Et moi, je leur disais, écoutez, c'est vous qui êtes fou de ne pas croire. Vous devriez être complexé de ne pas croire. Vous vous rendez compte de ce que vous perdez. Et c'est des gens très engagés dans des idéaux, dans un désir de changer le monde, un désir de vaincre l'injustice, etc. Mais, hélas, ils ne voulaient pas croire. Alors, Pâques, c'est la fête que les chrétiens annoncent dans le monde entier. Vous savez, ce matin, quand je suis réveillé, j'ai pensé à tous les pays qui dépendent de l'Église orthodoxe. J'appelle ça l'orthodoxie. Et je me suis dit, au moins là, dans les villages, parce qu'en Grèce, ça se passait comme ça, dans les villages, chacun frappe à la porte du voisin. Et il sort cette phrase, Christ est ressuscité. Et l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Et ça s'est passé comme ça dans toute l'orthodoxie. Dans le monde, les orthodoxes russes, les orthodoxes grecs, etc. Et ce n'est pas non plus un hasard si l'Église primitive a choisi le dimanche comme jour de rassemblement. Pourquoi est-ce qu'on est rassemblé ce matin? Pour le culte, puisque c'est le premier jour de la semaine que Christ est ressuscité. Donc tous les matins, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais tous les matins, c'est un bien-être, un bienfait de se dire Christ est vivant. Vous savez, un pasteur assisté, accompagné toutes sortes de familles dans les derniers jours des membres de certaines d'entre elles. Et j'ai remarqué une chose, et j'ai moi-même vécu le décès de parents, etc. Et quand on a en face de soi un défunt, on n'a qu'une envie, c'est qu'il ouvre les yeux. On se met à espérer quand on prie pour cette personne, quand on regarde l'être aimé, on se dit, mais si elle pouvait ouvrir les yeux, cette personne. Et on prie en tant que chrétien, on dit, Seigneur, tu pourrais la ressusciter, cette personne. Et on a envie de voir la vie engloutir la mort. Parce que, dans le fond, c'est ça la difficulté pour chacun d'entre nous, de penser que nous allons mourir. Et si on n'a pas l'espérance chrétienne, la certitude chrétienne, à ce moment-là, la vie n'a plus de sens. Et l'apôtre Paul a posé une question lorsqu'il est paru devant un roi, il a comparu devant un roi, et puis également devant un procurateur de la Judée. Il a dit dans son exposé, il a dit « Quoi ?» Il a dit au roi et à tous ceux qui l'écoutaient, « Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Parce qu'il avait en face de lui des autorités politiques. Et alors, Paul va développer son argumentation, il va dire, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que Christ souffrirait, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, donc le procurateur de la Judée, qui avait été nommé par le premier Néron, dit à haute voix, « Tu es fou! Ton grand savoir te fait déraisonner. » Voilà tout ce qu'ils ont trouvé à dire à Paul. Et alors Paul de reprendre, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Toutes ces choses, la mort du Christ sur la croix le vendredi saint, puis sa résurrection d'entre les morts le dimanche, n'ont pas été des choses cachées. Et le roi Agrippa II, eh bien, savait ces choses. Et Paul va même plus loin, il dit, le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, comme je vous l'ai déjà lu, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Alors j'imagine que le roi était bloqué, était interloqué, interpellé. Et Paul reprend de suite, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et Paul va lui répondre, je ne l'ai pas noté, mais « Qu'il plaise à Dieu, à part mes liens, je te souhaite qu'effectivement tu deviennes chrétien. » Quand on parle de résurrection, comme quand on parle des miracles en général, notre intelligence en tant qu'être humain s'oppose à tout ce qui n'est pas rationnel, à tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi mettre en doute la résurrection? Parce que pour certains, elle est au-delà de notre intelligence. Et pour tous, d'ailleurs. Quand on regarde les choses en face, on se dit, c'est extraordinaire. Si ça pouvait exister, ben oui, ça existe. Et Jésus, s'adressant à des hommes religieux de son époque, à des sadducéens, il leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà des hommes religieux qui enseignaient le peuple, c'était un parti politique religieux, mais qui mettaient en doute tous les aspects miraculeux, et évidemment la résurrection d'entre les morts. Et Jésus leur dit, mais vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, c'est-à-dire la Sainte Bible, ni la puissance, enfin, la Sainte Bible de l'Ancien Testament d'époque, ni la puissance de Dieu. Non seulement vous ne comprenez pas que Dieu a annoncé ces choses, et en plus de ça, vous croyez que Dieu n'est pas capable de réaliser des miracles. À des Juifs qui ont vécu, dont la nation a vécu toutes sortes de délivrances. Et voilà que l'être humain est frappé d'incapacité de croire à la puissance, à la toute-puissance de Dieu. J'ai noté un texte d'un homme qui l'a écrit à l'âge de 39 ans. Un de nos grands auteurs français, qui est décédé à l'âge de 47 ans, voilà ce qu'il a écrit dans une petite autobiographie. Il met un personnage en place et il dit « J'étais à l'aise dans tout, il est vrai, mais en même temps satisfait de rien. Chaque joie m'en faisait désirer une autre. J'allais de fête en fête. Il m'arrivait de danser pendant des nuits, de plus en plus fou des êtres et de la vie. Je courais ainsi, toujours comblé, jamais rassasié, sans savoir où m'arrêter. » C'est à ce moment que la pensée de la mort fit irruption dans ma vie quotidienne. Je mesurais les années qui me séparaient de ma fin. Je cherchais des exemples d'hommes de mon âge qui fussent déjà morts. Et j'étais tourmenté par l'idée que je n'avais pas le temps d'accomplir ma tâche. Quelle tâche ? Je n'en savais rien. À franchement parler, ce que je faisais valait-il la peine d'être continué ? Voilà un homme qui probablement était dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, hein, se pose des questions de fond sur le sens de sa vie, sur quoi il sert. Alors il continue. Il dit à franchement parler, ce que je faisais valait-il la peine d'être continué. Mais ce n'était pas exactement cela. Une crainte ridicule me poursuivait. En effet, on ne pouvait mourir sans avoir avoué tous ses mensonges. Et parce que je désirais la vie éternelle, je couchais donc avec des femmes et je buvais pendant des nuits. Le matin, bien sûr, j'avais dans la bouche le goût amer de la condition mortelle. Ça, c'est l'expression de ce que vivent tous les êtres humains sur toute la surface du monde. C'est Albert Camus qui a écrit ça, à l'âge de 37 ans. Voilà une analyse de ce qui se passe quand on ne possède aucune espérance. Quand on croit que Dieu n'est pas assez puissant pour ressusciter les morts. Quand on a du mal à croire dans les saintes écritures, dans la puissance du message de l'évangile. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle de sentiments de culpabilité, de désir de vie éternelle, de recherche du sens véritable de sa vie. Mais Albert Camus est un homme intelligent. Aimé, connu, connaissant la gloire. Ce n'était pas n'importe qui n'avait pas conscience de ce qui l'entourait. Au contraire, il a écrit des choses magnifiques. Mais voilà, dans le secret de son cœur, voilà ce qu'il vivait. C'est vrai que la mort rend tout absurde et affreux. Si tout s'achève dans la tombe, toute notre vie est empreinte de tristesse et de nostalgie. Vous savez, il y a un fil conducteur dans la vie des gens. Quand vous apprenez à connaître les personnes, à discuter avec elles, vous constatez quand elles ne connaissent pas le Christ, il y a cette espèce de nostalgie qu'un autre de nos grands auteurs français a résumé par une simple phrase. L'homme est un ange déchu et il s'en souvient. Le paradis perdu. C'est François-René Vicomte de Chateaubriand qui a écrit cette phrase. Et ça pose la question du sens de notre vie. Mais pourquoi faire le bien si tout s'arrête à la tombe? Quel est le sens de la morale si tout s'arrête au cimetière? La mort fait perdre sa valeur à tout ce que nous avons de plus précieux. Elle rend absurde les choses les plus louables et importantes. Quel sens donner à tout ça? La femme que j'aime, que j'embrasse, que je serre dans mes bras, partira un jour au cimetière. Les enfants que nous avons mis au monde, que nous avons choyés, aidés à grandir, éduqués, prendront aussi le chemin de la tombe. La mort rend tout absurde, choquant et révoltant. Et vous savez, on passe notre vie à combler ce trouble profond, ce désespoir qui nous habite, par toutes sortes de choses. Par le travail, par le sport, par toutes sortes de plaisirs, d'activités diverses, etc. Mais on est porteur dans notre âme de ce paradis perdu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, a écrit, il s'adresse aux chrétiens, Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tout s'achève dans la tombe, alors la naissance est une misère et la vie est aussi stupide qu'horrible. Discutons avec ceux qui nous entourent. Apprenons à les connaître pour qu'enfin ils ouvrent leur âme et leur cœur. Et vous verrez que derrière l'indifférence ou le refus de parler de Jésus-Christ, il y a ce trouble, cette angoisse, cette absence de vie. Seule la résurrection donne un sens à la vie et de la valeur à l'espérance chrétienne. Si la mort triomphe, tout devient insupportable. J'ai entendu un frère parler des témoins d'Emmaüs, les deux qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient complètement découragés. Ils avaient placé, comme tous les apôtres, toute leur espérance en Christ qui accomplissait des miracles, qui tenait des paroles extraordinaires et bouleversantes, qui touchaient les cœurs. Enfin, un être exceptionnel. Et quand l'apôtre Jean, dans un premier épître, dit « Ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé, il est en train de parler du Fils de Dieu. » J'imagine l'apôtre Jean en train de regarder le Christ, en train de manger, en train de dormir, et en train de se dire « C'est la vie éternelle qui est là, présente dans cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. » Et voilà que le Christ, il le voit mort sur la croix, mis au tombeau. C'est le désespoir de tout être humain devant la tombe. Mais le Christ est sorti vivant. Et quand les témoins d'Emmaüs ont rencontré le Christ, il y a une chaleur dans leur cœur. Et ils se sont dit, mais nos organes, notre être tout entier, nos âmes étaient en train de vibrer. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible, il est vivant. Vainque la mort, vainque la puissance du péché, vainque le désespoir. Voir toutes ces choses être littéralement, poussées, repoussées, détruites par la vie. C'est cela le christianisme et la personne du Christ. Sophie Marceau, l'artiste soi-disant la plus aimée des Français. Alors, c'est certainement vrai, elle est charmante. Il m'arrive de lire les journaux féminins. J'ai lu Marie-Claire en janvier 2008. Et alors, il y avait un article là concernant Femmes de lumière, la page 89 et 90. Voilà ce qu'elle a déclaré à l'époque. C'est l'idée de la mort que je trouve insupportable. Je ne m'y fais pas. Même si je sais très bien qu'on n'est pas prêt de trouver le secret de l'immortalité. Rendez-vous ce qu'elle exprime, le désir de vie éternelle. Et le désespoir face à la mort. Mais c'est incroyable. Tout le monde l'aime. Elle a réussi sa vie. Elle a de l'argent. Les hommes lui courent après. Elle a du succès. En plus, elle est belle. Mais elle est perdue. Elle est triste dans son cœur et dans son âme. Alors elle continue. Je n'ai pas envie de laisser ce que j'aime et je veux continuer à voir la lumière. Non, 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 je ne veux pas laisser la vie. Au cimetière, la vie a été engloutie dans la mort. Avec Christ, c'est l'inverse. Ce qui est mortel a été englouti par la vie. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce verset, au verset 14, chapitre 2, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants, et en vous et moi, participent au sang et à la chair, il, le Christ, y a également participé lui-même. C'est pour ça que le Christ est descendu du ciel pour revêtir un corps semblable au nôtre. Nous sommes des êtres faits de chair et de sang, le Christ a dit à son Père, « Père, je descends par amour pour toi » et par amour pour l'humanité, afin de la sauver, je descends sur cette terre dans un corps semblable aux créatures que sont les êtres humains. Donc c'est pour ça que le Christ est Dieu fait homme, tout simplement. Mais c'est extraordinaire. Et alors il dit, il y a également participé lui-même à la chair et au sang, afin que par la mort, c'est-à-dire la sienne, Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tout à l'heure, notre pasteur a dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais la mort, c'est un ennemi, quel que soit l'âge à laquelle elle frappe. Vous savez, souvent on dit un tel est décédé. Quel âge avait-il? 90 ans. Wow, normal. Non, c'est pas normal. La mort, c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que la mort est venue à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort en physique. Mais c'est aussi la mort éternelle et la mort spirituelle. Non, la mort, c'est pas normal. Évidemment, quand un enfant est retiré de sa famille, il y a un sentiment de révolte. Mais on devrait avoir le même sentiment de révolte pour quelqu'un qui est très âgé. Moi, j'ai perdu ma maman, elle était rentrée dans sa 103e année. Je n'ai pas trouvé ça normal. Non pas parce que c'est ma mère, j'aurais aimé la garder. Simplement, je me dis, mais on n'est pas, on n'a pas été créé pour mourir, c'est évident. Et c'est pour ça que la Bible dit que la mort, c'est notre ennemi. Et quand vous allez au cimetière et quand vous entendez parler de mort, dites-vous bien, en tant que chrétien, c'est un ennemi. Et cet ennemi a été vaincu. Mais cet ennemi rend les gens qui ne connaissent pas Christ comme des esclaves. Ils sont dans la crainte, dans l'angoisse de la mort. Quelque chose d'angoisse de la mort. Moi, à 20 ans, je n'avais pas trop l'angoisse de la mort. Quand on me disait, t'as peur de la mort, c'est bon. Sauf que des fois, j'avais peur. Pas tout le temps, mais oui, j'avais peur. Ça me prenait tout seul dans mon coin, vous savez. Je me disais, voilà, je vais mourir, c'est la merde. Mais pire que ça, le péché m'empêchait de vivre ce que je voulais vivre. C'est-à-dire vivre honnêtement, vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la beauté. Et je regardais autour de moi et je voyais que tout était entaché. L'absence de confiance entre les êtres humains. Les mensonges, les paroles non tenues, les trahisons, tout ça c'est le péché, tout ça c'est l'œuvre du diable dont la puissance a été anéantie. Mais une puissance qui nous habite, la puissance du péché quand on n'est pas chrétien, qui nous habite et qui nous brise, et qui fait de nous des êtres désespérés, puis on donne le change. Vous savez ce qu'on dit, c'est les clowns les plus désespérés de la terre. Ils font rire tout le monde. Mais ils pleurent, vous vous souvenez du film de Charlie Chaplin? Quand on le voit faire ses pitreries, puis après il pleut. C'est quelque chose, vous savez, la nature humaine. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons aller au contact des perdus. Pour ne pas oublier cette réalité. Une perdition des individus à laquelle le Christ nous a fait échapper. Grâce à cette résurrection de Jésus-Christ, notre vie en tant que chrétien a pris tout son sens. L'amour a trouvé sa valeur. La famille et la morale ne sont plus absurdes. En tant que chrétien, on ne marche pas selon les principes de ce monde. On marche selon les principes des Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre travail ne sera pas vain parce qu'il est fait dans le Seigneur. Et la résurrection fait la force du message chrétien. Unique dans cette bonne nouvelle de cette résurrection. Qu'est-ce qu'on aurait à dire? Si le Christ était resté dans le tombeau, comme tous les autres responsables ou fondateurs de religion, qu'est-ce qu'on aurait à dire? On n'aurait rien à dire. Mais justement, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, on a tout à raconter. Et nous-mêmes, nous participons à cette vie de résurrection, dans la mesure où nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pouvons dire non au péché. Je ne sais pas si, en tant que chrétien, on se rend compte de ce que ça veut dire de pouvoir vivre avec une conscience pure dans un monde complètement pourri. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, notre identité chrétienne, notre vie chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se renouvelle chaque jour. Et je suis heureux d'être chrétien depuis 48 ans et de vivre cette vie de résurrection dans un corps mortel par la grâce de Dieu. C'est pour ça que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 33. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, dit Paul. Albert Camus, comme je vous le disais tout à l'heure, parlait de cette crainte ridicule qu'il poursuivait. En effet, on pouvait mourir sans avoir avoué tous ces mensonges. Et vous connaissez tous notre académicien illustre, Jean d'Ormesson. Lui aussi aimé par tout le monde. Il est tellement agréable, cet homme. Et puis il a tellement de choses à raconter. Et puis on se dit, mais quelle vie extraordinaire. Comme il le dit lui-même, il est né dans la facilité. L'autre jour, j'écoutais, il a dit, il y a une bonne étoile qui veille sur moi. Il est né en 1925, on écoute. Il est toujours vivant. Il a écrit un livre en 2005 qui s'appelle Une fête en larmes. Il y a donc 12 ans de cela qu'il a écrit ce livre. Il a dit « Je suis aujourd'hui un des derniers représentants d'une vieille lignée française qui considère le monde et la vie avec une légèreté apparente, avec une bienveillance amusée. » C'est à fait lui, hein, sur le sourire aux lèvres et le verbe agréable et intelligent. Il rajoute « M'empêche-t-il de voir ses plaisirs et ses rires ?» Que le monde est sinistre. Je crois, à vrai dire, qu'il l'a toujours été. Et il le sera toujours. Je suis de ceux qui croient à un péché originel et à la présence d'un mal qui rentrera par la fenêtre quand on l'aura chassé par la porte. Voilà l'expression par un académicien français de la puissance du péché. On essaye de vaincre le péché, mais il rentre par une porte. Et regardez son désespoir, le monde est sinistre. Je crois à vrai dire qu'il l'a toujours été. Mais quand on regarde l'histoire du monde à travers tous les peuples, toutes les civilisations, c'est toujours la même histoire. Toujours. Des moments sympathiques, mais aussi des moments terribles. De guerre, de meurtre, de toutes sortes d'histoires, de combines, de choses qui nous font horreur. Qui va nous sortir du péché? Qui va nous communiquer la vie de résurrection face au péché? Il n'y en a qu'un, c'est le Christ, qui n'a jamais commis de péché, et qui est mort pour nos péchés, afin que notre dette soit payée, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Mais imaginez, réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez des embrouilles dans vos familles, ou avec des collègues de travail, ou avec des voisins, je ne sais pas si vous avez des embrouilles, mais ça arrive, voire plus que des embrouilles, des disputes. Vous vous souvenez le malaise qu'on ressent? On est mal à l'aise. Donc. C'est pour ça qu'on est mal à l'aise avec Dieu. Parce qu'il y a entre lui et nous ce que la Bible appelle le péché. Alors qu'est-ce que c'est que le péché, là? Le péché, c'est ne pas rendre gloire à celui qui nous a créés. Le péché, c'est ne pas rendre gloire à Dieu, mais plutôt chercher à se rendre gloire à soi-même ou rendre gloire à d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Donc le péché, c'est en même temps une nature. Nous ne pouvons pas régler le problème du péché par l'éducation, parce que c'est un problème de nature. Il y a quelque chose dans notre nature qui est faussé. Le péché habite en nous. On a besoin d'une intervention chirurgicale. On a besoin d'un changement d'organe. Là, c'est du domaine spirituel. Dieu veut opérer une intervention chirurgicale, changer quelque chose dans notre nature pour vaincre le péché. C'est pour ça que le Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. 3 jours après, pour permettre cette greffe spirituelle, cette intervention divine dans nos vies pour changer littéralement quelque chose dans notre nature. Nous donner la vie du Christ, nous donner la vie de Dieu dans nos corps mortels, afin que nous soyons délivrés dans ce même corps, délivrés de la puissance du péché, et de vivre une vie de résurrection. C'est-à-dire de vivre différemment de tous les autres hommes et femmes que l'on connaît. Et d'être des modèles, des exemples. des porteurs d'espérance et de vie nouvelle autour de nous. Pourquoi? Parce que quand les gens regardent des chrétiens, des vrais chrétiens, qui aiment le Seigneur et qui sont soumis à son autorité, ils sont attirés ou repoussés. Mais beaucoup sont attirés parce qu'ils nous regardent. Vous savez, un jour, il y a des filles chrétiennes splendides qui me disent, Jean, tous les garçons, plein de garçons, vous vous rappelez. Et on dit, c'est normal, vous êtes chrétienne, vous allez attirer les garçons. Parce que les garçons, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ils cherchent des filles propres, pures, intelligentes, qui ont un sens à leur vie, qui parlent de choses profondes. Ils savent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec les autres, ce qui est une horreur, ils ne devraient pas, mais c'est une horreur. Mais... C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous vivez dans la sainteté, dans la pureté, vous ne pouvez qu'attirer. Pour les gars, c'est pareil. Les garçons chrétiens, c'est pareil, ils vont attirer les filles. Nous, on a trois grandes filles. On a vu le violon, la mandoline sous les têtes de nos enfants. Il fallait qu'on intervienne pour les protéger. Pourquoi? Parce que dans le quartier, ben, les uns les autres attiraient soit des filles, soit des gars. Et heureusement que ma femme était là pour mettre de l'ordre. Parce qu'elle sentait le coup venir. Et oui, maintenant ils sont tous mariés depuis longtemps avec des chrétiens engagés. Est-ce qu'on va être délivré de ce péché? Je cherche confusément leur. Ok, merci. Et ça me rappelle une dame que j'ai rencontrée dans la ville de Blois. Et je faisais l'évangélisation avec une équipe, je me suis retrouvé tout seul. Et j'avise un pavillon avec un monsieur qui était en train de tomber la haie, avec un sécateur. Enfin, je ne sais pas un bon truc, hein. Il s'appelle un sécateur. Et je lui dis, monsieur, je viens pour apporter l'évangile. Il me dit, rentrez, allez voir ma femme. Rentrez. Et là, je toque à la porte qui est ouverte, il est beau, c'est un été. Et là, j'entends une voix qui me dit entrez. Et je vois une dame, mais élégante, âgée, un couple âgé. Mais alors, une belle femme, un beau port de tête, avec des yeux intelligents, brillants. Elle me dit qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai dit ben voilà, madame, votre mari m'a autorisé, et tout, voilà, je vous présente l'évangile. Elle m'a dit je parle de Dieu. Je dis, ah bon? Comment faites-vous? Elle dit, asseyez-vous. Alors on était, elle d'un côté d'une de latin, moi de l'autre. Et elle me dit, monsieur, je suis une humaniste. Et je regarde, je dis, ah oui. Et elle me dit, monsieur, le bien et le mal, je connais. Et je mobilise toute ma volonté pour ne pas accomplir le mal. Et je l'écoute, et c'était une femme authentique. Je me suis dit dans mon cœur, c'est une humaniste authentique. Enfin, j'en avais une en face de moi. Et alors, on avait ce dialogue-là, et à chaque fois, j'essayais de trouver le joint pour pénétrer dans son raisonnement. Et elle me disait, mais monsieur, je sais très bien que le mal existe et je fais tout pour ne pas faire le mal. Et puis, quand je sais faire le bien et que je n'ai pas envie de le faire, ben je me force pour le faire. Elle venait de me citer un verset de l'épître de Jacques. Et je la regarde, je lui dis, mais madame, mais je vous crois. Je crois que vous êtes authentique. Puis en même temps, dans ma tête, je tournais à toute vitesse pour trouver l'angle. Et puis je me suis dit, mais je vous ai une question suivante. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le péché? De quelle manière est-ce qu'on peut pécher? Alors comme vous le savez, on peut pécher volontairement. On peut pécher par omission, comme elle vient de le dire, celui qui sait faire le bien ne fait pas commettre un péché. Et puis on peut pécher de la troisième manière. Et je regarde cette femme et que j'ai avec beaucoup de respect. Et je lui dis, madame, je crois que vous mobilisez votre volonté pour ne pas accomplir le mal. Et je vous admire pour ça. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Comment faites-vous pour ne pas pécher en pensant? Et là, cette femme me regarde. Elle me dit, monsieur, c'est le combat de ma vie. Et je n'y arrive pas. Je dis, madame, c'est pour ça que vous avez besoin de l'évangile du Christ. Parce qu'on peut maîtriser beaucoup de choses. Mais nos pensées, on n'y arrive pas. Elle m'a dit, donnez-moi votre évangile, je vais le dire. Je ne suis jamais retourné dans la bonne ville de gloire. Mais voyez le péché. Le Christ est mort pour cela. Et il est ressuscité. pour notre justification. Mais le message de la résurrection de Jésus-Christ et de la résurrection universelle ne concerne pas seulement les chrétiens. L'évangile concerne tous les hommes, croyants ou pas. L'apôtre Paul affirme qu'il y aura une résurrection des justes, c'est-à-dire des croyants, et des injustes, des incroyants. Tout le monde va ressusciter. Vous savez, quand mes collègues de travail me disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Je disais « Mais vous allez ressusciter, les gars !» Et vous allez ressusciter, puis vous allez passer devant le jugement de Dieu. Et quand je lis les expériences de la pré-vie, vous savez, les gens qui ont vu quelque chose sont venus encore. Ils disent tous, on va vers la lumière. Ben moi, ça ne surprend pas. Dieu est lumière, on va tous comparaître devant Dieu. C'est évident qu'au bout du tunnel, comme il dit, il y a une lumière. C'est Dieu. Sauf que la Bible rajoute une chose. C'est que, comme l'a dit le prophète Daniel, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc ceux qui sont morts, se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous les croyants et incroyants ressusciteront et vivront toujours soit pour la vie éternelle, soit pour le jugement. La Bible nous avertit. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est une mise en garde. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Pour terminer, dans les livres de l'Apocalypse, il y a cette révélation qu'a eu l'apôtre Jean, cette vision. Et il dit au chapitre 20, versets 11 à 15, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que vous avez cette certitude dans votre cœur? Est-ce que quand je vous pose cette question, votre conscience, votre intelligence, votre cœur vous dit « Oui, je sais, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je sais, je suis sauvé, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. » Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Nos noms sont écrits avec le sang qui a coulé, le sang du Christ qui a coulé à la croix. Et à chaque fois que quelqu'un se tourne vers le Christ pour le recevoir comme sauveur et seigneur dans sa vie, son nom est inscrit dans le livre de vie. Avez-vous reçu le Christ dans votre cœur, dans votre vie? Lui avez-vous demandé de venir? Je me souviens de cette jeune chrétienne à l'église de Nation. Ça faisait 5 ans que je la connaissais. Dès qu'on lui demandait quelque chose, elle était première pour être volontaire. Et un soir, je prêche l'évangile, et au moment de l'appel, elle lève la main pour dire, signifier qu'elle venait de recevoir le Christ. Donc je vais rencontrer cette jeune fille, et je lui dis, mais ça fait 5 ans que tu es dans l'église. Elle me dit, je suis issu d'une famille chrétienne évangélique. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en Jésus-Christ. Mais je ne l'avais jamais reçu comme mon sauveur personnel. Jamais. Et dit, j'ai toujours suivi parce que je croyais. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Je n'avais pas rencontré, je n'avais pas reçu. Et vous voyez, dans la Bible, il y a deux verbes, croire et recevoir. Ils ne sont jamais dissociés. Quand on croit au Christ, c'est une chose. Quand on le reçoit, alors là, on est sauvé. Et j'aimerais vous poser cette question encore une fois. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite à le faire dans le secret de mon cœur. À lui dire Seigneur Jésus-Christ, et je vais prier à la fin de ce message, pour inviter ceux et celles qui veulent faire cette rencontre avec le Christ, être réconciliés avec le Christ ressuscité et avec Dieu son Père, à faire cette prière. Mais avant, j'aimerais simplement terminer par le fait que la résurrection du Christ est aussi un appel à vivre pour lui. Tant pour les chrétiens que nous sommes, que pour ceux qui vont le devenir. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, est-il écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivons-nous pour le Seigneur en tant que chrétien. Et vous qui allez prononcer cette prière dans le secret de votre cœur, c'est en même temps une invitation et une consécration à suivre le Christ, à vivre pour lui. Faisons le bon choix ensemble, afin de vivre et de travailler pour le Christ ressuscité. Alors j'invite chacun à courber la tête dans un moment de recueillement, et je vais prononcer une prière, tout ça, et je demande à ceux et celles qui veulent rencontrer le Christ comme leur sauveur personnel, et bien silencieusement dans votre cœur, de répéter cette prière, les phrases que je vais prononcer, les répéter après moi. Ça va se passer entre Dieu et vous. Et je vous demanderai une chose à la fin de la prière, c'est que vous ne quittiez pas cette église sans vous adresser aux amis qui vous ont invités ou au pasteur qui a présidé ce culte et qui leur retrouve la parole après moi, sans que vous alliez dire à quelqu'un en qui vous avez confiance, j'ai fait la prière, afin que cette personne puisse prier pour vous et que vous, vous puissiez témoigner de votre engagement pour Christ. Donc je vais faire la prière, vous la récitez silencieusement dans votre cœur, et à la fin du culte, s'il vous plaît, ne quittez pas cette église sans avoir dit à quelqu'un de confiance, j'ai fait la prière ce matin. Alors je vais prier maintenant. Père Céleste, nous voulons te remercier pour notre Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé sur cette terre mourir sur la croix pour mes péchés. Ressuscité le troisième jour pour que je sois justifié. Seigneur, ce matin, j'ai cru en toi pendant bien des années, mais je ne t'ai jamais reçu personnellement. Seigneur, ce matin, je te demande de venir dans ma vie. Je t'invite dans ma vie et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, sauve-moi, comme le dit ta parole. Fais de moi ton enfant et fais de moi un disciple. Je veux, à partir de ce jour, vivre pour toi, vivre en communion avec toi. Merci pour tout ce que tu vas m'accorder selon les promesses de ta parole. Amen.
Merci à notre frère Jean pour ce message.